C'est Olivier, je viens d'Abetsom. Alors quand j'entends que c'est impossible de faire du vélo taf en territoire rural, bah je dois être un ovni, un objet vélocycle non identifié parce que j'utilise quotidiennement mon vélo et je fais 45 km par jour pour aller travailler, j'utilise pour aller faire mes courses ou pour aller chercher mes enfants. Donc ma voiture elle est passée de 1200 km par mois à moins de 200, j'ai gagné l'équivalent carburant, ça fait à peu près 170 € par mois. Ma voiture s'use moins vite, j'ai moins de frais d'entretien, j'ai perdu du poids, je suis plus en forme, je profite pleinement de la nature. Et cerise sur le gâteau, mes collègues commencent à me rejoindre. Alors c'est pas tout rose, c'est vrai, quand il pleut faut s'équiper, quand il fait froid faut s'habiller, mais c'est très loin d'être insurmontable. En plus, j'ai réparé mon vélo, donc du coup, pour parler de résilience, ça se pose là. Et quand je vois les stations essence, la queue de voiture de 5 places de 2 tonnes avec une seule personne dedans, ça me conforte dans mon choix. Donc continuez votre émission, c'est vraiment top. Merci beaucoup, à plus.
Bonjour la Terre au carré, et merci pour vos émissions qui nous aident à comprendre le monde d'aujourd'hui et peut-être à imaginer le monde de demain. Je suis Marianne, de la médiathèque du Tonkin à Villeurbanne, près de Lyon. Et dans le cadre de la fête de la science, je vous invite ce vendredi 14 octobre à une introduction aux sciences de l'évolution avec l'étude de monstres, d'animaux ou de personnages très connus de la science-fiction, de la bande dessinée ou de l'héroïque fantasy. Comment classer Chewbacca et sa célèbre truffe de gros chien dans l'arbre de l'évolution des mammifères. Réservez votre place sur le site des médiathèques de Villeurbanne. Merci la Terre au carré pour avoir pris mon appel.
Bonjour, c'est Laurie de l'Oise, un petit village. À propos de sobriété, il y en a quand même un qui parlait depuis le départ de sobriété heureuse, c'était Pierre Rabhi, et je m'étonne que dans les médias, on n'entende plus du tout parler. Alors je sais vaguement qu'il y a eu des controverses, peut-être au niveau sociétal, sur lui. Est-ce que éventuellement on pourrait pas refaire une émission sur lui et sa sobriété heureuse?
Christophe, de Trie-sur-Baïse. J'entends qu'on parle au sujet de l'écologie et des efforts à faire, de pas pouvoir se déplacer, voyager, tout ça. Justement, est-ce que ça créerait pas un repli sur soi? En pourcentage de personnes qui voyagent, loin ou moyenne distance, est-ce qu'on aurait une idée du nombre de personnes que ça change réellement? Chez qui ça provoque vraiment une ouverture au monde? Parce que je pense que le tourisme ou le voyage est plus souvent utilisé en termes de consommation plutôt qu'en termes d'ouverture aux autres. Bon après-midi, au revoir.
Oui, bonjour Mathilde de Dole. On entend parler sur tous les médias de bilan carbone, de sobriété énergétique. On nous demande d'être responsables, de baisser nos radiateurs pour qu'un petit geste soit utile au sauvetage de la planète. Par contre, on n'entend jamais parler de ce que représentent tous les rallyes automobiles, tels que les 24 heures du Mans, le Dakar et tous les autres qui représentent un très important gaspillage. À quand une prise de conscience de cette aberration? Au revoir.
Merci beaucoup pour vos messages. La sobriété qui décidément vous fait beaucoup réagir sur ce répondeur. Vous poursuivez bien sûr vos appels 24 heures sur 24. Vous en avez maintenant l'habitude au 01 56 40 45 45. L'histoire de notre planète, c'est une suite incroyable de hasards, d'événements qui a permis à la Terre de réunir toutes les conditions nécessaires à l'émergence, au développement et au maintien de la vie depuis maintenant près de 4 milliards d'années. Notre planète a la chance de se situer dans une zone habitable par rapport au Soleil, ce qui a été fondamental dans l'apparition de vie biologique. Aujourd'hui, ce sont les conditions mêmes d'habitabilité de la Terre qui posent problème en raison d'un grand nombre de limites planétaires qui ont été dépassées et qui deviennent critiques pour notre humanité. Que signifie justement ce concept de limite planétaire? Comment résonne-t-il dans un contexte où nos modes de vie restent ancrés dans un modèle de progrès sans fin? Eh bien, c'est l'occasion cet après-midi de confronter et de réfléchir à ces deux notions avec notre invité, Johan Chapoutot. Bonjour.
Bonjour Mathieu Vida.
Merci d'être avec nous. Vous êtes historien, professeur d'histoire contemporaine à la Sorbonne et vous êtes spécialiste du nazisme et de la modernité occidentale. Vous êtes l'auteur d'un livre, Le Grand Récit, qui est sorti aux presses universitaires de France. Et puis, fin novembre, vous allez publier avec Dominique Dominique Bourg, un manifeste contre l'impuissance publique. Ce sera chez Gallimard. 50 ans donc après la publication du rapport Midos sur les limites de la croissance, on va s'interroger avec vous sur les équilibres de notre planète et comment on peut les maintenir, surtout pour préserver nos ressources. On en parle bien sûr avec les auditeurs qui nous rejoignent sur la page de la Terre au Carré, les réseaux sociaux et l'application France Inter pour vous entendre. Camille Crony, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
On passe au vert à 14h30.
Bon, alors je comprends plus rien, faut éteindre la lumière, faut se laver les mains à l'eau froide, bon, enfin plein de mesures de sobriété assez logiques. Et en même temps, on va aller faire du ski en Arabie Saoudite, je suis paumée.
Eh bien on verra plus clair tout à l'heure certainement à 2h30. Voilà pour le sommaire de cette émission réalisée par Valérie Aguestaraï, préparée par Lucie Sarfati avec Tiffany Battistel aujourd'hui à la technique.
La Terre au Carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
On va donc parler limites planétaires et illimitisme, dossier donc de l'émission avec vous, Johan Chapoutot. Alors je le disais tout à l'heure, vous êtes professeur d'histoire et spécialiste du nazisme et de la modernité occidentale. Alors pour ceux qui se demanderaient ce que vient faire un spécialiste du nazisme dans une émission sur l'écologie, vous répondez quoi ?
Que j'ai travaillé sur l'idée de nature sous le Troisième Reich dans mes travaux de recherche et que j'ai fait un article il y a quelques années sur les nazis et la nature, sur les nazis et l'environnement, puisque certains nous ont fait croire que les nazis auraient été de grands écologistes, etc., alors que c'est tout le contraire, hein. Ils incarnent et ils matérialisent quelques-unes des tendances les plus sinistres et les plus néfastes de notre modernité occidentale, à savoir l'extractivisme, le fait de considérer tout être et toute chose comme une source d'énergie dans laquelle on va puiser jusqu'à l'épuisement, et le productivisme forcené, ce qui les a amenés à détruire à la fois les hommes et à la fois les environnements, à commencer par l'Allemagne, puisque les forêts, les champs, les zones humides, les côtes et les montagnes allemandes ont été absolument dévastées par la voracité nazie.
Donc ça, c'est un parallèle qu'on peut faire avec l'époque que nous vivons.
Oui, parce que le nazisme avant 1941 est une expérience politique, économique, qui séduit beaucoup les contemporains, notamment les élites contemporaines qui sont effrayées par d'autres phénomènes comme le communisme, comme le Front Populaire, comme la redistribution sociale, etc. Hein, le fameux « plutôt Hitler que Blum » que l'on disait en France et en Grande-Bretagne à partir de 1936. Et le nazisme, au contraire, apparaissait comme le camp de la raison. Un endroit où il faisait bon vivre pour l'argent, puisque les nazis avaient réussi en cassant la gauche et puis en commandant massivement des armes à l'industrie, avait réussi à transformer à nouveau l'Allemagne en zone d'investissement optimale où on avait un retour sur investissement massif si on y investissait son argent, tout simplement parce qu'ils exploitaient jusqu'à la lie l'environnement et les individus.
Alors l'été que nous venons de vivre, caniculaire et sec, a été qualifié justement d'historique au sens où il a été exceptionnel. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant qu'historien, précisément ?
Alors le terme d'historique est intéressant parce que c'est effectivement ce que j'ai entendu dans la communication gouvernementale. Hein. Au niveau du gouvernement, il n'y a guère que de la communication d'ailleurs. Ce terme-là, dans leur bouche, signifie exceptionnel, comme vous l'avez dit. Or, c'est tout le contraire, puisque c'est un été qui devient la norme. Hein. Depuis 2016, nous en avons l'habitude. Nous le voyons et nous voyons que ça s'aggrave à chaque fois. Autrement dit, c'est historique, mais dans la mesure où ça devient une norme. On nous a cité à foison et à satiété l'été 1976. Il faut voir que l'été 1976 est une plaisanterie par rapport à ce qu'il s'est passé cet été et à ce qu'il risque de se passer très probablement dans les années suivantes, si, comme actuellement, on ne fait décidément absolument rien, comme ces élites dont je parlais, hein, qui dans les années 30 avaient décidé de ne rien faire face aux nazis, parce que c'était un régime qui rapportait de l'argent, qui était un partenaire fiable, et qui devait être, sinon encouragé, du moins plus que toléré.
Yoann Chapoutot, donc il y a 50 ans paraissait ce rapport scientifique dont on a beaucoup parlé cette année, donc le rapport Midos, supervisé par les chercheurs Denis et Donella Midos, qui évaluait donc pour la première fois l'impact de l'activité humaine sur notre planète. C'est vraiment la première fois qu'on pensait le système Terre en entier à l'époque. C'est ça qui a fait aussi l'originalité de ce rapport.
Alors, ce qui en a fait l'originalité, c'est plutôt la diffusion planétaire de ce rapport qui a eu de véritables effets cognitifs et politiques, d'abord aux États-Unis où il y a eu une véritable prise de conscience, à commencer déjà sous la présidence Nixon. C'est quand même assez fou de se dire que, par exemple, le gouvernement français actuel est plus à droite que qu'un Nixon qui a encouragé les politiques environnementales aux États-Unis avant Gerald Ford et avant Jimmy Carter. L'identification de la planète comme système cohérent et global, elle date du 19e siècle et elle date de la naissance de ce qu'on appelait l'écologie comme science. Il faut bien se souvenir que l'effet de serre, par exemple, a été identifié par des physiciens français en 1824. On est deux siècles après. Et deux siècles après, on entend un président de la République dire que la solution, c'est qu'il faut plus produire. Alors, on se demande ce qu'il faut qu'il se passe pour que, vraiment, ça perfuse et ça percole.
Donc, ça veut dire que depuis 50 ans, je parle vraiment du rapport Meadows, parce que ça a quand même créé une onde de choc à l'époque où il a été publié. C'est-à-dire qu'on n'en a tiré aucune leçon?
Juridiquement, oui, puisqu'il y a eu le protocole de Kyoto, il y a eu le sommet de Rio pour la Terre, il y a eu la COP de Paris. Il y a eu des dispositions qui ont été actées par les États, qui ont été signées, des engagements qui ont été pris, mais qui, de fait, ne sont pas respectés. Pour une raison simple, c'est que ces États sont liés dans un vaste système de corruption, je crois qu'on peut l'appeler ainsi, à des intérêts privés, d'abord et avant tout des intérêts fossiles et pétroliers et gaziers, qui impliquent d'aller toujours plus loin dans l'extraction, dans la production, dans une course complètement délirante au toujours plus.
Ce qui caractérise la façon de gouverner aujourd'hui, c'est une corruption généralisée.
Quand vous avez des intérêts privés qui financent vos campagnes électorales, que ensuite, lorsque vous arrivez au pouvoir, vous servez ces intérêts privés en abolissant l'ISF, en faisant une flat tax pour le capital, c'est-à-dire en taxant beaucoup moins le capital que le travail, et lorsque ensuite, après être sorti de fonction, vous allez rejoindre ces mêmes entreprises du privé où vous allez donner des conférences à 100 000 euros la soirée au Qatar, j'appelle ça un système de corruption.
Vous réagissiez tout à l'heure justement au cabinet de conseil, avec les prix qui sembleraient avoir baissé, en tout cas facturé par le gouvernement, et vous haussiez les épaules d'un air ironique.
Le cabinet de conseil, c'est véritablement le dernier élément parasitaire de ce système qui fleurit sur un système où on va encourager des solutions dogmatiques complètement déconnectées de toute réalité, où on va appliquer à toute réalité, qu'elle soit des réalités productives privées ou des réalités de services publics qui ne sont pas soumises aux mêmes normes, on va appliquer les mêmes solutions, toujours pour aller vers plus de profit. Donc, à mes yeux, effectivement, ce n'est pas de 10% qu'il faudrait baisser, c'est de 100%, oui.
Yoann Chapoutot, vous faisiez tout à l'heure un parallèle assez marquant entre le nazisme et l'époque actuelle. Ça voudrait dire aujourd'hui que le nazisme, c'est quoi? C'est le capitalisme? Ou ce sont encore plus précisément ces entreprises fossiles, etc. Qui sont les nazis d'aujourd'hui, si on suit le parallèle?
Alors déjà, il faut voir que l'Allemagne nazie, comme l'Italie fasciste et comme toutes les dictatures généralement, regardez la Russie d'aujourd'hui, regardez les pays, les monarchies pétrolières du Golfe, toutes les dictatures sont toujours très liées aux industries d'extraction fossile. Il y a une espèce de conjonction, de sympathie entre les intérêts politiques dictatoriaux d'un côté et puis l'accumulation délirante de capital de l'autre, de la part de ces compagnies. Le nazisme avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale et avant le déclenchement de la Shoah, c'est encore une fois une expérience politique et sociale, mais aussi biologique, eugéniste, etc., qui est regardée comme le fascisme italien, avec beaucoup de sympathie par des élites qui, aujourd'hui, regardez encore il y a quelques années avec beaucoup de sympathie et beaucoup d'intérêt l'expérience chinoise. Voilà un lieu, nous disait-on, c'est des choses que j'ai entendues autour de moi. J'ai des gens diplômés, hauts fonctionnaires, hauts placés dans le privé qui me disaient que c'était là-bas que les gisements de croissance se trouvaient, c'était là-bas qu'il fallait aller et c'était de là-bas que l'on pouvait tirer du profit. Voilà, donc la Chine à ce moment-là et puis désormais le Qatar. Enfin, quand je vois il y a quelques semaines une du Point consacrée à l'émir du Qatar pour un grand entretien de justification de cette Coupe du Monde absolument absurde, qui est un non-sens humain, juridique, économique et écologique, je me dis que ça me rappelle très clairement, c'est une du temps ou du matin dans les années 30 où l'on annonçait la dernière interview du chancelier Hitler qui nous expliquait à quel point son régime était merveilleux.
Yoann Chapoutot, vous restez avec nous bien sûr parce que vous êtes l'invité de la Terre au Carré. On parlera donc de ses limites planétaires et puis de l'illimitisme. On connaît peut-être moins ce concept et pourtant il s'illustre déjà amplement.
Be honest with how you feel. Les Sacred Souls à l'instant sur France Inter.
La Terre au carré sur France Inter.
L'historien Johan Chapoutot, l'invité cet après-midi de l'émission, on parlait du rapport Meadows donc, qui fête ses 50 ans, c'était en mars 1972. Denis Meadows d'ailleurs, dessiné aussi, parce qu'on le disait, ça a quand même créé le choc, hein, la sortie de ce recueil sur les limites planétaires. Il dessinait quand même les contours d'une solution urgente, on va entendre sa voix, voilà justement ce qu'il disait en mars 72, au moment où était révélé ce rapport.
Il existe une alternative viable à ce scénario. Si la croissance démographique et la production de marchandises entrent en équilibre avec nos ressources limitées, et cet équilibre peut être atteint dans les 50 ou 100 ans à venir si nous procédons de manière méthodique. Autre point très important, chaque année perdue dans la mise en œuvre d'une nouvelle politique rendra la transition nécessaire beaucoup plus difficile et diminuera nos chances de la réaliser.
Alors, Johan Chapoutot, a-t-on procédé de manière méthodique depuis 50 ans ?
Force est de constater que ce n'est pas le cas.
On a perdu beaucoup de temps quand même. Hein.
Et la notion de limite, de toute manière, elle n'est pas intégrée à ce que les adeptes de notre système économique appellent eux-mêmes leur logiciel, hein, comme s'ils étaient eux-mêmes des ordinateurs, c'est intéressant. Ce système économique, c'est un capitalisme financiarisé hein, et dérégulé par le néolibéralisme depuis les années 1970, et qui n'intègre absolument pas cette notion de limite, qui se fonde sur le principe que les ressources sont en abondance et elles sont gratuites, hein, par convention d'ailleurs économiquement, elles sont gratuites, et que l'on peut pousser au maximum leur extraction. Et d'ailleurs, on se rend compte qu'aujourd'hui, on est face à une logique jusqu'au boutiste, une logique de forcené en fait. Hein. Le mot qui s'impose, je pense, c'est celui de forcené. Lorsqu'on entend que la sobriété, ce n'est pas moins produire, rassurons-nous, c'est toujours plus produire. Là, on se dit qu'on a affaire à des gens qui n'ont rien compris ou qui font mine d'avoir rien compris. Et ces forcenés-là soumettent le système géoclimatique à un forçage, à des forçages de plus en plus intolérables, de plus en plus insupportables par le milieu naturel et par le vivant qui nous conduisent à la catastrophe.
On en parlera tout à l'heure, évidemment, hein, sur le fait de produire la sobriété dont on a beaucoup parlé ces derniers jours. Ces limites planétaires, rapidement, est-ce que vous pouvez nous dire
Quelles sont-elles justement? Il y en a 9, hein, c'est ça?
Alors, ce qui est intéressant avec la notion de limite planétaire, c'est que ça nous permet de déclimatiser un petit peu la chose. Parce que ce dont on parle beaucoup en ce moment...
C'est le réchauffement climatique, ouais.
Voilà,
le climat, l'énergie, ouais.
Exactement, et d'ailleurs c'est tout à fait mélangé dans un micmac incompréhensible par le gouvernement actuel, parce qu'on parle d'énergie dans un contexte particulier, etc. Mais au-delà du climat, il y a des limites planétaires qui sont identifiées par les géoclimaticiens, par les biologistes, par les éthologues, etc., qui sont au nombre de 9, et les principales sont évidemment les équilibres atmosphériques, donc que l'on voit parfaitement troublés par la survenue de sécheresses et de canicules de plus en plus massives, de plus en plus rapides, de plus en plus longues. C'est l'acidification des océans, c'est l'artificialisation des sols. Bref, c'est quelque chose qui va bien au-delà du simple climat et qui nous montre que notre système économique, qui vise toujours une production accentuée, toujours aggravée, n'est pas tenable, n'est pas viable au sens de la vie, n'est pas viable pour notre environnement, cette fine pellicule qui se situe sur la croûte terrestre et dans l'atmosphère et qui est un miracle.
C'est la zone habitable dont je parlais tout à l'heure.
Hein. Absolument.
C'est vraiment une mince couche dans l'univers quasiment.
Enfin, absolument.
Il y en aura peut-être d'autres, on va peut-être en découvrir, mais pour l'instant on est assez unique. Hein.
Tout à fait, et c'est cela qu'on détruit, tout simplement pour satisfaire des intérêts qui sont totalement aveugles et qui assument, hein, puisque c'est un mot à la mode, qui assument, en fait, ils n'assument rien du tout, hein, bien entendu, mais qui assument un écocide et un biocide.
Alors ces limites, on considère qu'elles ont déjà été largement dépassées. Comment est-ce qu'on l'a modélisé, calculé? Quel est le point qu'on peut faire aujourd'hui en 2022 justement?
Alors,
sur ces limites?
D'après les rapports, les plus récents rapports du GIEC, et notamment ceux qui sont parus ce printemps, 7 limites sur 9 ont été dépassées. Ce qui est une situation unique dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de la vie, et ce qui effectivement conduit à sonner le tocsin, mais de manière très vive.
Dépasser de façon irrémédiable, ou il y a un moyen de revenir en arrière, ou c'est mort pour 7 sur 9?
Alors, il y a des moyens de réagir, au sens d'une réaction, d'un retour en arrière, mais avec des effets, des politiques, pour le coup, de sobriété et de réduction de la production, et de réduction des forçages absolument massives, notamment la décarbonation complète, par exemple, des productions, le simple fait de réduire massivement les flux de matière et les flux d'énergie qui structurent notre économie. Tout cela doit être entrepris pour, justement, préserver l'habitabilité de la Terre.
Donc ça, c'est toute la machine du progrès aussi qui a engendré le dépassement de ses limites. Capitalisme, le forçage justement sur les énergies dont vous parliez tout à l'heure. Donc c'est ça qu'il faut arriver aujourd'hui à freiner. Et alors ce qui est intéressant, c'est que vous qui êtes aussi un spécialiste des grands récits depuis le 18e siècle, ça remet totalement en cause finalement ce récit du progrès de l'humanité au travers précisément du capitalisme qui fonde nos économies aujourd'hui.
Alors ce récit-là a été très puissant. Il a été au fond le codage de notre manière de voir l'histoire depuis le XVIIIe siècle. Le fait que la production et le commerce produisent la paix, le bien-être, le bonheur, etc. C'est quelque chose qui a pu être acté par le réel, mais qui, depuis les années 1970, ne l'est plus. De fait, la promesse, si vous voulez, social-démocrate et keynésienne d'échanger de la force de travail contre du salaire et contre du bien-être ne fonctionne plus. On le voit depuis les années 70. Il y a un découplement de tout cela. Et on le voit également avec le dérèglement climatique général qui menace tout simplement nos vies. Et ça, c'est quelque chose d'assez stupéfiant de voir que on essaie de vivre, d'éduquer nos enfants, d'apprendre un minimum de décence dans le respect des individus, dans le respect des ressources, dans le respect de l'environnement. Et chez ceux qui sont censés donner l'exemple, ou tracer une vision, ou tracer une voie, on voit exactement le contraire. Ce sont les pires décisions qui sont prises, quand elles sont prises, ou sinon, on laisse faire, on laisse aller, en laissant l'initiative privée pourvoir à la catastrophe.
Il y a pas mal de messages pour vous, Yoann Chapoutot, sur franceinter.fr. Arnaud qui nous écrit « Je regrette vivement que M. Chapoutot ne soit pas un élu politique. » Donc peut-être pensez-y. François, enfin un intellectuel qui dit quelque chose de sensé. Merci, ça fait du bien d'entendre sur votre antenne une parole sans concession. Et Hélène demande, elle, si vous partagez, Yoann Chapoutot, l'idée défendue par de nombreux autres historiens que le génocide et par extension les crimes contre la nature sont le stade suprême du capitalisme.
Alors, d'un certain capitalisme, oui, et d'un capitalisme qui serait complètement délié de tout principe moral et de toute fin autre que celle de l'accumulation, de l'enrichissement et de la course au profit. Or, c'est cela que l'on voit aujourd'hui. C'est quelque chose, c'est une course au profit qui est complètement décorrélée de toute quête morale, spirituelle, intellectuelle, artistique, de tout rêve, de toute ambition proprement humaine. On voit advenir un monde de cauchemar. C'est ça qui est en train de se produire.
Quels exemples vous avez là pour illustrer ce que vous dites ?
Là, écoutez, on voit l'absurde tous les jours. Lorsque on organise une Coupe du Monde dans des stades climatisés au Qatar, en plein désert, qui ont été construits d'ailleurs au prix de 6 à 15 000 morts, et que l'on voit, on va prêter une attention politique, médiatique à cette horreur, et je le dis avec d'autant plus de souffrance que j'aime beaucoup le football et que je l'ai beaucoup pratiqué, c'est un exemple parmi tant d'autres. Lorsque l'on voit des compagnies pétrolières accumuler des profits absolument indécents, refuser de partager quoi que ce soit avec le consommateur et avec la main-d'œuvre et nourrir grassement des actionnaires, c'est un autre exemple. Enfin bref, tout est à l'envers en fait, tout est monté à l'envers dans le système actuel, et c'est pour les gens qui réfléchissent une réelle souffrance, pour les citoyens également une réelle souffrance. Et lorsque vos auditeurs disent que certains nomment les choses, je pense que c'est important effectivement que les chercheurs en sciences sociales, les juristes, les scientifiques, les politiques disent les choses et disent que par exemple, poursuivre dans cette voie-là, c'est criminel et que par ailleurs, les gens qui portent ce système seront, d'ici peu, vu l'évolution de la société et l'évolution du droit, seront passibles des tribunaux et de cours pénales internationales.
Yoann Chapoutot, rapidement, vous parlez du monde à l'envers. Il y a un extrait dans ce manifeste contre l'impuissance publique sur l'illusion du virtuel et c'est assez intéressant parce que vous écrivez, c'est stupéfiant. On assume de dévaster le réel pour offrir aux quidam privés d'oiseaux, de grillons et d'arbres la consolation d'une réalité virtuelle. Donc ça, c'est deux mondes qui s'opposent. C'est-à-dire qu'effectivement, on laisse aujourd'hui le vivant, ce qui vraiment nous constitue, nous caractérise, au profit de cette machine numérique.
Oui, on assume, pour reprendre ce mot si fréquent dans la bouche de nos politiques, de créer des déserts biologiques par l'artificialisation des sols, c'est-à-dire par le bétonnage, le goudronnage et la dévastation irréversible, parce que quand on goudronne, on ne dégoudronne pas, généralement, ou par les intrants chimiques massifs dans une agriculture ultra-productiviste. Donc on assume cela pour donner la consolation, je ne sais pas moi, du métaverse. Alors aujourd'hui, par exemple, on va vous dire que la grande priorité de recherche, c'est le métaverse. Mais quelle formidable idée! Quand on voit les coûts en termes d'énergie, en termes de carbone, de cette illusion et de cette espèce de dystopie complètement irréelle.
Le métaverse, on explique, c'est une réalité, c'est vivre dans une réalité virtuelle.
Oui,
qui
avait fait une première apparition au début des années 2000, je me souviens, sous la forme de Second Life, qui avait fait long feu. Donc là, on veut coupler en fait l'univers des jeux vidéo avec l'univers d'Internet pour projeter des gens qui seraient accablés par le désert du réel, comme disait Jean Baudrillard, pour les projeter dans une réalité virtuelle. Vous parliez du rapport Meadows tout à l'heure, de manière quasiment concomitante, vous avez Soleil Vert, ce film très...
C'est passé hier sur la télé, sur Arte.
Absolument, ce film si prémonitoire, qui décrit un univers complètement détruit et dévasté par le productivisme. Et c'est cela que l'on nous promet en ce moment.
Yoann Chapoutot, vous êtes l'invité aujourd'hui de La Terre au Carré.
France Inter, La Terre au Carré.
Et on passe au vert à 14h33, Camille Cronier.
Et je commence à être officiellement paumée, ça y est. Alors pourtant, vous savez que j'essaye de suivre tous les jours tout ce qui se passe autour du climat, de la biodiversité. Là, vous savez qu'en France, on est à fond sur...
La sobriété.
La sobriété, c'est la première ministre qui parle. Le gouvernement présentait jeudi dernier son plan officiel parce que, insiste Elisabeth Borne...
La sobriété n'a jamais été une question aussi sérieuse. La sobriété s'est imposée comme une nécessité. C'est un fondement pour la transition écologique.
Mais alors attention, elle prévient quand même.
La sobriété énergétique, ça n'est pas produire moins et faire le choix de la décroissance.
Mais moins consommer, donc moins consommer, mais continuer de produire. Premier truc qui me perd un petit peu. Et la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, en remet une petite couche.
Ce travail, il illustre la méthode du gouvernement. Une méthode qui n'est pas une écologie de salon, punitive, descendante, comme certains voudraient nous l'imposer.
Allez, bim, prenez ça les amis. Enfin, le mot d'ordre, le voilà quand même.
Mobilisation générale. Tout le monde doit s'engager. Tout le monde, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation d'urgence. Urgence pour notre planète qui s'assèche et qui brûle. Urgence pour les générations futures. Urgence pour la biodiversité.
Allez, tout le monde s'y met là, c'est urgent, hein, mais le gouvernement ne veut pas imposer. Il en appelle à la responsabilité individuelle, à la responsabilité collective, avec, vous le savez, des recommandations pour limiter le chauffage à 19 degrés, débrancher les appareils électriques, faire plus de covoiturage, éteindre les enseignes lumineuses après 1h du matin, arrêter l'eau chaude dans les entreprises pour se laver les mains et plein d'autres mesures de bon sens, comme disent les ministres, ce qui est vrai au passage. 4h08, oui, Bibi, c'est encore tout farci pour nous dire tout ça. Donc avec une super musique aussi avant chaque discours. La parole est à vous. Pendant 4h, c'était ça. Chaque ministre prenait la parole pour présenter ses petites mesures. Alors là où je suis paumée, c'est que les petits gestes ont beau être très importants, ils ne peuvent pas se substituer à des mesures plus structurelles et globales parce que la crise, évidemment, est planétaire. Mais là, on attend encore. Et il s'avère que quasiment au même moment, la semaine dernière, pendant donc qu'on nous dit de nous laver les mains à l'eau froide, cette annonce, en 2029, les Jeux asiatiques d'hiver auront lieu en Arabie Saoudite. Oui, 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 le pays désertique. Même ma chère maman n'y a pas cru, elle m'a laissé exprès un message sur mon répondeur pour être sûre.
Juste question, je voulais savoir, histoire de ski en Coupe du Monde ou je ne sais quoi en Arabie Saoudite, c'est une fake news ou c'est vraiment un truc qu'ils veulent faire? Si c'est le cas, on marche vraiment sur la tête. Hein.
Eh ben non, Mamounette, c'est pas du tout une fake news. Hein. Ces Jeux d'hiver auront lieu à Trojena, précisément, zone montagneuse entre 1500 et 2000 mètres, où les températures descendent sous 0 degré en hiver. En tout cas, c'est ce qu'assurent les promoteurs des lieux. Parce que c'est là aussi qu'une ville futuriste est en train d'être construite, The Line, présentée en toute modestie comme un nouveau miracle pour le monde, je cite.
Imagine a traditional city designing to protect and enhance nature.
Une ville pour protéger et développer la nature, c'est beau, hein. C'est le rêve de Mohamed Ben Salman, hein, le dirigeant de l'Arabie Saoudite. Bon, pour revenir en tout cas à nos Jeux d'hiver, j'ai quand même appelé un climatologue, Gilles Rammstein, du laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, pour vérifier, être sûr de l'incompatibilité avec l'Arabie Saoudite.
Ça se saurait s'il y avait, dans ces zones-là qui sont extrêmement arides, désertiques, des stations de ski, hein.
Voilà, un autre scientifique qui lui fait des observations satellites, Simon Gascoin du CNRS, a compilé 22 ans de données satellitaires. Donc avec ce résultat, la probabilité de neige à Trojena est en dessous de 1,7 jours par an. On part donc bien sûr pour de la neige de culture, hein, comme à Pékin lors des derniers Jeux Olympiques d'hiver. Et au-delà de l'impact, c'est surtout le message envoyé bien sûr qui gèle Gilles Rammstein.
Tout ça est complètement aberrant, c'est juste qu'il faut bien comprendre que ce ne sont pas des lieux de prédilection pour faire ces compétitions. Et donc le critère n'est pas du tout un critère climatique, mais un critère financier. Tant que ce critère-là, c'est le critère essentiel des décisions, eh ben, ça peut être très très orthogonal aux orientations que les scientifiques donnent. Et c'est ça qu'il faut que les gens comprennent à la fin.
Alors donc la mobilisation générale, oui, mais pour penser davantage être qu'à voir. Alors je sais que ça fait un peu cucu dit comme ça, mais c'est vrai. Et visiblement on n'y est pas. Jack nous a aussi écrit par mail. Comment voulez-vous qu'on fasse des économies d'énergie quand on voit le foot au Qatar et les Jeux d'hiver en Arabie Saoudite? Moi, je vais arrêter. Voilà ce qu'il écrit. Non, n'arrêtez pas Jack, ni les autres, parce que bah, sinon là on est vraiment foutus.
Et c'était Camille Passauvert, à réécouter sur franceinter.fr.
Yoann Chapoutot, vous avez suivi évidemment juste la semaine dernière, si on prend que l'exemple de la semaine dernière, donc avec le plan de sobriété du gouvernement et cette annonce des Jeux d'hiver en Arabie Saoudite.
Mais la réaction de votre maman est intéressante parce que quand elle imagine une fake news, hein, de fait c'est tout le, c'est le système général, le fonctionnement général du monde qui est complètement fake. On nous plonge dans une telle absurdité, dans un tel déluge. On est tellement submergé par des annonces qui n'ont aucun sens et par des décisions qui sont les pires décisions possibles, que effectivement, on parle de gorafisation du monde aussi, hein, pour parler de cette absurdité générale, on est entre, Uburoy et le soleil vert en permanence.
Et quand le gouvernement et la première ministre, en l'occurrence, ou Agnès Pannier-Runacher, transition énergétique, disent, voilà, attention, la sobriété, c'est pas punitif, la sobriété, c'est pas moins produire.
Alors là, on a un exemple supplémentaire du fait que ce n'est pas vous qui êtes paumés, c'est eux qui sont complètement paumés. Ils sont complètement perdus, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Et d'ailleurs, ils font un métier, une profession de ne pas savoir ce qu'ils disent et de tordre le sens des mots. Donc là, on a besoin de linguistes, on a besoin de psychanalystes aussi, on a besoin de philologues pour remettre les mots à l'endroit et leur faire redire ce qu'ils veulent dire.
Mais vous mettez toute la classe politique dans le même panier, même les écolos?
Je parle de ceux qui sont au gouvernement actuellement et qui prennent véritablement les pires décisions possibles. Lorsque vous avez un candidat qui intitule son livre Révolution, par exemple, en 2017, pour mener une politique de réaction, lorsque l'on parle de bienveillance à longueur de temps pour faire exactement le contraire, répression policière, destruction de l'État social, destruction des services publics généralisés, c'est-à-dire de ces institutions dont on a besoin aujourd'hui, dont on va avoir d'autant plus besoin face aux bouleversements qui viennent. Détruire l'ONF, c'est pas une bonne idée. Météo France, l'école, l'hôpital,
c'est la dislocation justice. Dont vous parlez, dislocation de la société.
C'est une dislocation qui est voulue par un catéchisme néolibéral qui est appliqué de manière tout à fait dogmatique et qui est nourrie par des mots qui sont totalement inversés. Lorsque ces gens parlent de sobriété et qu'ils disent « rassurez-vous, la sobriété ce n'est pas moins produire », eh bien moi ça ne me rassure pas d'entendre ça, ça m'épouvante. Parce que la sobriété c'est précisément de moins produire, de réduire drastiquement les flux de matière et les flux d'énergie qui structurent notre économie pour éviter le forçage de forcenés auquel on soumet notre environnement que l'on est en train de détruire en détruisant notre vie.
Comment vous expliquez ça, justement, qu'on soit incapable de dire, au fond, que la sobriété, c'est de moins produire? C'est parce que, comme vous parliez tout à l'heure, il y a trop d'enjeux avec des lobbies, il y a trop de corruption au sein de l'État.
D'enjeux économiques et sociaux aussi, parce que ça veut dire moins produire, moins de boulot derrière.
Absolument. Alors, les catégories dirigeantes, que ce soit dans le privé, à la tête de Total ou à la tête de l'État, quand vous voyez un président de la République qui dit « Make the planet great again », d'ailleurs, avec une formule qui ne veut rien dire en anglais, et qui ensuite va écrire au président ougandais pour soutenir 400 forages de Total dans des zones ultra protégées, dans des paradis naturels à préserver, on est dans un monde totalement inversé. Donc cette couche-là, elle est inamendable, parce qu'elle est trop liée, au fond, à des intérêts financiers, à une forme de jouissance, à une forme de sadisme aussi.
Oui, mais il y a peut-être aussi une peur de la part de réactions de citoyens. Si on dit on arrête de produire, il n'y a plus de travail, les citoyens ils vont se dire qu'est-ce qu'on va faire.
Il y a ça, et il y a aussi le fait, comme vous le dites, que la tâche est absolument immense. Il ne s'agit pas forcément de changer de civilisation, parce que notre civilisation, au fond, elle s'accommode très bien, comme d'autres grandes civilisations, de ne pas détruire, de ne pas violenter, de ne pas violer, de ne pas tuer. Voilà. C'est-à-dire tout ce qui, au contraire, est promu aujourd'hui. Le fait de considérer les êtres et l'environnement comme des sources de prédation permanente, d'extraction de la richesse et d'épuisement pour produire une valeur financière. Donc il ne s'agit pas de changer de civilisation parce que, encore une fois, les principes sur lesquels la nôtre repose s'accommodent très bien d'être doux et d'être bon, si vous voulez. Mais par contre, il s'agit de démonter et de remonter tout un système socio-économique qui est hérité de la seconde moitié du 19e siècle et qui est fondé sur le mécanocène, qui est fondé sur le capital, qui est fondé sur l'extraction illimitée. Alors, ça passait par les colonies, ça passe désormais par le néocolonialisme, ça passe par l'exploitation forcenée du prolétariat aujourd'hui et des couches productives. Et il s'agit de changer tout cela et d'arrêter de promouvoir une consommation illimitée qui est promue par un système médiatique privé qui, par ailleurs, est très lié à des acteurs majeurs de ce système économique-là. Mais ça demande aussi un petit peu d'imagination, un petit peu d'intelligence, un petit peu d'humour et d'élévation intellectuelle et morale de la part de nos gouvernants, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et ça implique également que ces gens-là nous donnent l'exemple, c'est-à-dire quand la France brûle l'été, par exemple, éviter de faire du jet ski. Vous voyez, ça donnerait un meilleur exemple et ça montrerait que le gouvernement, ce n'est pas les Marseillais à Dubaï.
Eh bien voilà, ils sont rhabillés pour l'hiver. Johan Chapoutot est notre invité cet après-midi dans la Terre au Carré.
On m'a dit, t'es trop douce, t'es trop lisse, tout glisse sur toi. Sois moins tendre et descends ta voix. Tu sais, les gens gentils comme toi, on n'aime pas ça. Faut te durcir, on t'écoutera.
M'a dit Colline Rio.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard et Camille Cronier sur France Inter.
L'apocalypse finira par arriver. Alors l'alternative est de devenir une civilisation spatiale et une espèce multiplanétaire. J'espère que vous savez que c'est la bonne direction à prendre. N'est-ce pas? C'est ce qu'on veut. Alors comment fait-on pour vous emmener sur Mars et créer une ville autosuffisante? Une ville qui n'est pas un avant-poste, mais qui devienne une planète à part entière pour qu'on puisse ensuite devenir une véritable espèce multiplanétaire.
Le milliardaire Elon Musk en 2016, Johan Chapoutot, historien, l'invité de la Terre au Carré. Alors là, vous qui aimez les récits, c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs récits finalement dans ces 20 secondes d'Elon Musk. Il y a d'abord le récit de l'apocalypse, c'est-à-dire qu'on essaie de nous faire croire que c'est vraiment la fin du monde, histoire de nous faire peur et de pouvoir nous vendre autre chose derrière, non?
Ce qui est merveilleux, oui, il s'agit bien de vendre, mais ce qui est merveilleux, c'est de vanter le fait d'aller conquérir et coloniser une nouvelle planète qui est absolument inhabitable et où la terraformation est impossible, tout simplement pour des raisons de gravité, hein, de gravité de cette planète. On ne peut pas fixer une atmosphère sur Mars sans même parler des conditions de pression et puis de température, après avoir dévasté la seule planète qui soit véritablement habitable. Donc là, on a un phénomène de prédation parasitaire. On a affaire à un virus, en fait. On arrive sur...
Ces milliardaires sont des virus en eux-mêmes.
Absolument. On arrive sur un territoire, on le dévaste, on le saccage, et puis on s'en va pour prendre un autre. C'est une relation, si vous voulez, minière à la planète, ou une relation d'éco-buage permanent. On vient, on détruit une forêt, et puis ensuite on va détruire d'autres parcelles de forêt, comme en Amazonie actuellement.
Donc on parlait des limites planétaires tout à l'heure, on disait 7 sur 9 sont déjà dépassées, sauf que là, on est bien au-delà, c'est-à-dire qu'on est finalement au paroxysme du progrès, dans quelque chose que vous nommez l'illimitisme, précisément.
Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'on ne parle plus plus de progrès, puisque le terme qui a subi quelques avanies au XXe siècle, hein, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, les génocides, la bombe atomique, on s'est rendu compte que la disjonction entre la percée scientifique et puis l'arriération morale rendait difficile l'emploi de ce terme de progrès. Donc désormais, on parle d'innovation. Mmh. Hein, c'est le mot à la mode et qui d'ailleurs permet de dire que si tout est limité, alors certains vont quand même accepter cette idée-là, ils ont au moins cette lucidité, si tout est limité, il y a quelque chose qui est illimité, qui est la matière grise humaine et l'intelligence qui nous permettra de nous en sortir. Mais quand on voit que...
C'est la technologie, donc.
Oui, la technologie, c'est le technosolutionnisme, en fait. Hein, confier toutes les solutions à la technique. Mais le fait que l'intelligence supposée soit incarnée par des milliardaires immatures, prédateurs, plus connus pour leur jouissance infantile et leur goût des paradis fiscaux que pour leur amour philanthropique de l'humanité, j'avoue que c'est quand même assez inquiétant.
Mais pris au sérieux quand même, puisque la NASA, en l'occurrence, utilise les vaisseaux, par exemple, faits par Elon Musk pour envoyer les astronautes dans l'ISS en ce moment.
Logique néolibérale qui consiste à confier certaines missions de services publics ou de l'État à des prestataires privés.
Oui, n'empêche qu'ils sont pris au sérieux. C'est...
Mais parce qu'ils ont de l'argent. Et parce que
et de
tout
la technologie.
Est tenu. Et parce que tout est tenu par l'argent. La technologie, pas tant que ça, parce que lorsqu'on voit les expéditions spatiales de Jeff Bezos, d'Elon Musk et de je ne sais pas qui...
Richard Branson, par exemple.
Voilà, hein. Ce sont des excursions stratosphériques pour milliardaires ultra gâtés avec un bilan carbone désastreux, mais ça ne va guère au-delà.
Mais ça veut dire que pour vous, ce sont des gens qui, en fait, n'ont pas dans leur cerveau un truc qui dit qu'à un moment, ça s'arrête, enfin, que ce soit la vie, les ressources, etc. Il leur manquait une case, en fait c'est quoi le...
Alors ça, c'est du ressort de mes collègues psychiatres, ouais. Qui, je pense, auraient beaucoup de travail à examiner les discours et puis les actes de ces gens-là. Ce qui est très clair, c'est que leur promotion sociale massive, le fait que les gouvernements les accueillent à bras ouverts, tolèrent leur fraude fiscale, tolèrent le saccage de l'environnement qui est induit par la construction des entrepôts de Monsieur Bezos ou des usines de Monsieur Musk, etc. Tout cela veut dire qu'ils représentent quelque chose. Alors qu'ils soient fous peut-être, mais en tout cas, ils représentent quelque chose dans un système qui est tout à fait cohérent, où il y a une course infinie au profit, à l'accumulation, avec une explosion, évidemment, des inégalités. Parce que tout est lié dans ce système socio-économique. Vous avez, par la dérégulation et le néolibéralisme, un creusement gigantesque et inédit dans l'histoire, sauf au XIXe siècle, parce qu'à bien des égards, on revient actuellement au XIXe siècle.
Entre les plus riches et les plus pauvres.
Voilà, donc une béance absolument massive entre les plus riches et les plus pauvres, du fait des inégalités. Et tout cela, évidemment, entretient le saccage de l'environnement, puisque certains, qui sont... assujettis ni à l'impôt, ni aux règles des sens communes, ni aux règles du droit commun, se croient tout permis pour continuer à dévaster, saccager, détruire, accumuler et jouir. Parce que, hélas, il y a chez ces gens-là une forme de jouissance narcissique, infantile et malade, véritablement, de cette accumulation de puissance et de destruction.
Yoann Chapoutot, juste pour le plaisir, écoutons Richard Branson, parce que lui aussi a pris beaucoup de plaisir dans son premier vol dans l'espace, c'était en juillet 2021.
Lunettes de soleil et simple écouteur, Richard Branson semble presque aussi décontracté qu'un simple passager d'avion de ligne. Pourtant, cet avion-là, c'est lui qui l'a fait construire, imaginer, financer, et dans quelques secondes, il va s'offrir son rêve d'enfant.
3, 2, 1, release, release, release. Ignition.
Bravo à toi, Richard, et à tes coéquipiers. Vous devenez astronaute aujourd'hui.
Rien ne peut vous préparer à la vue de la Terre depuis l'espace. Waouh, c'était magique. Nous voulons rendre l'espace accessible à tous. Bienvenue dans une nouvelle ère du spatial.
Voilà, Yoann Chapoutot, on vend du rêve, on vend de l'accessibilité, justement. On nous fait croire que c'est accessible au plus grand nombre, alors que les billets sont hors de prix pour l'instant. Et vous, encore une fois, qui vous intéressez autant au récit, là, il y a un récit aussi intéressant, parce que, justement, on nous vend quelque chose qui nous arrache un peu de notre condition humaine aujourd'hui, qui n'est pas très drôle, quand même.
Oui, et tout en continuant à dégrader cette condition humaine de manière obstinée, forcenée, et puis obtuse, dogmatique aussi, on vend effectivement du rêve en vendant deux choses. En vendant, d'une part, l'échappée belle via le virtuel, hein, le métaverse, les crypto-monnaies dont on parlait dans le journal tout à l'heure. Il faut voir que le minage
On parlait de forçage tout à l'heure.
Écologiquement, c'est une catastrophe.
Le minage de cette monnaie qui est le bitcoin, dont je n'ai toujours pas compris l'utilité sociale, environnementale, humaine et philanthropique, c'est la consommation annuelle de la Suisse ou de la Suède. Voilà. Donc il faudra qu'on m'explique à quoi ça sert. Donc on vous vend le virtuel, le métaverse, etc. Vous détruisez le réel, allez dans le virtuel pour vivre une vie merveilleuse, mais c'est fantastique. On vous vend l'espace, mais alors l'espace, là, de manière très darwinienne et très sociale darwinienne, seuls les happy few pourront y accéder. Ouais. En fait, ils n'y accéderont jamais, mais en tout cas, c'est le plan. Et vous avez tout simplement la fuite, parce que ces gens-là ne sont pas toujours totalement fous. Ils préparent actuellement soit leur bunker, pour faire face à l'apocalypse qu'annonçait plaisamment et de manière très infantile Monsieur Musk, où ils préparent leurs îles artificielles pour vivre en communauté de riches entre eux sur les océans.
Qu'est-ce qu'on nous vend aujourd'hui comme récit ? Alors si on veut embarquer justement le maximum de gens dans une terre vivable, habitable, justement qui préserve ses ressources et qui ne dépasse pas les limites planétaires, qu'est-ce qu'on écrit comme récit aujourd'hui ?
Bah, c'est un récit politique qui passe d'abord par le micro-politique, c'est-à-dire ces changements de vie, ces reconversions, ces décisions qui ont été prises à titre individuel par beaucoup de nos contemporains pour vivre mieux une vie humaine, une vie de partage, une vie de solidarité, une vie d'amour, une vie d'amitié, qui ne soit pas cette vie sordide que l'on nous vend, qui est celle du calculateur égoïste qui rêverait d'être milliardaire. Souvenez-vous de ce que disait Macron il y a quelques années, il faut qu'il y ait des jeunes qui rêvent d'être milliardaires. Mais c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Il faut qu'il y ait des gens qui veuillent avoir une vie décente et humaine. Donc il y a le micro-politique, il y a la rupture du système, on va dire, socio-économico-politique actuel qui pourrait passer, hélas, par des violences. Mais je dis hélas parce que nous avons une démocratie représentative qui est une chance unique dans l'histoire de l'humanité et qui est abîmée et saccagée par ceux qui en sont à la tête aujourd'hui, que ce soit des Trump, des Bolsonaro ou plus proches de chez nous, et qui ne voient pas ce qu'ils sont en train de saccager. Lorsque vous créez une convention citoyenne pour le climat en disant on va reprendre sans filtre, je cite l'expression vulgaire, sans filtre toutes les décisions, et qu'en fait vous n'en reprenez rien, que vous êtes moqué du monde à ce point-là, qu'ensuite vous dites c'est très bien qu'il y ait un dialogue parlementaire, mais qu'ensuite vous prévenez que si jamais il y a des amendements, il y aura 49-3, vous saccagez la démocratie comme vous avez saccagé l'environnement.
Donc quoi, révolution à suivre ?
Hélas, c'est une perspective qui maintenant s'ouvre de la faute et de la responsabilité de ceux qui détruisent la démocratie représentative actuellement.
Vous craignez l'accroissement des violences, vous l'écrivez.
Ah mais très clairement.
La situation est favorable justement à cela.
Mais bien sûr.
Et ça, parce c'est l'historien qui parle, parce que l'historien est censé avoir un peu de recul. Oui. Donc vous parlez avec le recul que vous avez de l'histoire d'avant, c'est
bien
ça ?
Bien sûr, mais quand on voit les pressions physiques et psychiques massives qu'induisent les dérèglements climatiques actuels sur nos contemporains, des souffrances réelles face à ce qu'il se passe et face à l'absurdité des décisions qui sont prises, le recours à la violence, on l'a déjà vu cet été d'ailleurs, un activisme anti-gaspillage et anti-absurdité s'est développé, ça devient une hypothèse maintenant très réaliste. Et c'est problématique dans la mesure où la violence n'est jamais souhaitable pour personne. Sauf que cette violence-là, les néolibéraux en jouissent. Parce que, de fait, leur conception de l'État, c'est réduire l'État social, c'est-à-dire les institutions qui nous permettent de tenir ensemble et accroître la répression.
Là-dessus, rapidement, Yoann Chapoutot, François sur franceinter.fr, vous dit, voilà, vous critiquez le système économique néolibéral, c'est exact, mais en quoi un système étatique de type soviétique ou semi-étatique comme la Chine serait-il moins prédateur ?
Mais c'était une catastrophe. Mais tout simplement, parce que vous parliez de récit tout à l'heure, c'est le régime soviétique était complètement encalminé, enquisté dans le même type de récit. L'ambition stalinienne, c'était de rattraper les économies de l'Ouest par des forçages massifs imposés à la nature soviétique avec un bilan catastrophique du point de vue environnemental et humain.
Donc faut inventer un nouveau système.
Mais évidemment, certainement pas cette horreur dictatoriale qui a fait des millions de morts et qui a dévasté l'environnement, ça c'est certain.
Des millions de morts, ouais. Difficile d'éduquer les gens au désintéressement, voire à la sobriété, c'est quand même tout le problème aujourd'hui. Parce qu'on a beau parler beaucoup de sobriété,
alors que toutes nos...
peu de gens sont pas embarqués là-dedans, vraiment.
On parlait de civilisation tout à l'heure. Lorsque vous prenez les différents types de religions chrétiennes, lorsque vous prenez les sagesses antiques, elles visent toutes l'ascétisme, la sobriété, la paix, l'apaisement entre les hommes et la nature.
Donc du christianisme à Platon et d'Aristote jusqu'au grand système juridique, c'est vers ça que ça s'oriente.
Merci Yoann Chapoutot. Chaque geste compte, manifeste contre l'impuissance publique. Ça sortira fin novembre, le 24, avec Dominique Bourg, chez Gallimard. Merci d'être venu au micro de la Terre au Carré cet après-midi.
Merci.